Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Martine est la mère de Lucas. Elle a une quarantaine d'années, elle travaille dans l'informatique. Lucas, son fils, a 15 ans, il aura 16 ans en août. Ils vivent seuls, tous les deux en banlieue parisienne. Camille est fonctionnaire, elle a 50 ans, elle est la mère de Pierre qui a 24 ans aujourd'hui. Elle a deux autres enfants, plus jeunes. Ils vivent tous les quatre dans un appartement de la banlieue parisienne, mais pas la même banlieue que Martine et Lucas. Dans les deux histoires, pas de père ni de beau-père à la maison. Famille monoparentale, les plus fragiles, les plus vulnérables. Martine et Camille ne se connaissent pas. Pourtant, leur histoire se ressemble. Même épuisement, même découragement, depuis que la substance est entrée dans leur foyer pour anéantir peu à peu la vie de leur fils et la leur par la même occasion. Aujourd'hui, deux histoires de mères qui n'y arrivent pas, qui n'en peuvent plus, qui ne savent plus quoi faire, ni à qui s'adresser. Deux mères qui appellent à l'aide, et dont les récits racontés par Sophie Knapp font clairement écho à la question que nous avions posée il y a quelques années, pourquoi les dealers vivent chez leur maman. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mon fils Lucas a connu son père, il avait déjà 3 ans, 3 ans et demi. Il se sentait toujours un peu abandonné, il y a toujours ce sentiment d'abandon qu'il a en lui, je pense lié à ça. Donc l'école, ça a été toujours un peu problématique. Ça a commencé vraiment, les problèmes au collège, à partir de la cinquième. Donc les problèmes, c'était de l'indiscipline, de l'irrespect. On a eu la commission de suivi, etc., le conseil de discipline. Et au bout du premier conseil de discipline, donc en janvier, il a été exclu définitivement. Donc, cette exclusion définitive a été vraiment un choc. Pendant plusieurs jours, il ne mangeait pas. Il était quand même un peu perturbé par cette sentence, même s'il y avait des raisons pour qu'on aille au conseil de discipline. Et à ce moment-là, il était suivi par une psychologue. Et grâce à elle, on a trouvé très rapidement un autre collège. Donc, il est arrivé dans ce nouveau collège en milieu de cinquième et ça s'est très bien passé. Après, il a continué sa quatrième dans ce collège. Et là, ça a commencé un peu... on a commencé à retrouver un peu ses travers, quoi. C'est à partir de ce moment-là où il a commencé, je pense, à fumer un peu des joints. Et en troisième, par contre, là, ça a été le début vraiment... ça s'est accéléré, en fait. Hein. Donc, accéléré, ça veut dire quoi? Je pense qu'il a commencé à fumer beaucoup plus. Et en début de seconde, c'était en début de cette année, donc j'ai vu tout de suite que ça n'irait pas, que c'était de pire en pire. Lucas, au départ, fume un joint avec des copains, et ensuite, eh ben, il en a besoin pour lui. Donc, comme il n'a pas d'argent de poche vraiment, il s'est retrouvé... à devoir de l'argent à un dealer, parce que du coup il a donc pris de la drogue. Alors il pensait qu'il allait se débrouiller tout seul en prenant pour lui et en revendant, et puis du coup il allait pouvoir rembourser. Il s'est bien rendu compte qu'à un moment donné ça ne marchait plus, et donc du coup il m'a dit un soir, il m'a dit voilà, il faut que tu m'aides, il faut qu'on rembourse, parce que du coup autrement il va m'arriver vraiment un problème. Et donc, c'est là qu'il m'a expliqué, en fait, que on fume un joint et après, on s'y habitue. Et puis que, du coup, ça évite de penser aux problèmes qu'on a. Et puis après, ils sont dans un monde à part. Ils fument ensemble, ils rigolent. Voilà, la vie n'a pas d'importance. Et puis, Continuer à fumer, ça lui permettait aussi d'oublier qu'il avait des dettes et qu'il n'arriverait peut-être pas à s'en sortir, et qu'il fallait qu'il m'en parle, et qu'il n'osait pas m'en parler, voilà. Puis du coup, cette personne lui demandait de planquer des choses. En fait, ils les tiennent comme ça aussi, les dealers, les petits jeunes, là, comme ça, en disant, « Ok, tu me dois de l'argent, donc tu ne peux pas me rembourser, tu planques des choses pour moi. » C'est un cercle vicieux. Je lui disais si j'avais pas d'argent pour rembourser, je dis on ferait quoi? Donc je dis on n'aurait pas d'autre solution d'aller au poste de police. Et il dit ouais, ben on en a retrouvé d'autres comme ça qui se retrouvaient à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas remboursé. Donc j'avais peur. En fait, c'est très compliqué. On a peur de se dire si on rembourse pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Lucas me disait, tu sais, ils savent où on est. Ils nous suivront, même si on déménage, ils nous trouveront. Et je pense qu'ils leur font tellement peur. Donc, il était dans ça. Donc, moi, j'ai remboursé. Voilà, c'était. Je crois que j'ai dû donner entre 400 euros facile. Je lui ai dit, ben voilà, moi, je te rembourse ça, mais c'est fini. C'est la première et la dernière fois. Et si je me retrouve encore à faire ça, j'irai voir la police. Voilà. Donc j'ai fait intervenir son père pour qu'on prenne une décision ensemble un peu radicale, parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'il change d'environnement pour l'isoler un peu de son père habitant à la campagne. Donc on s'était dit peut-être que ça ferait du bien. Sauf qu'avec son père, c'est très mal passé, donc il est revenu au bout d'une semaine. Il y avait vraiment une urgence à aider Lucas. Donc, on a fait une demande à l'aide à l'enfance pour avoir un suivi éducatif. On a eu ce suivi éducatif début de sa seconde, en fait, début septembre, parce que c'est un peu long à mettre en place. Le problème de Lucas, c'est qu'il est toujours partant pour tout. Il dit toujours oui à tout. Sauf que quand il faut y aller, ben après, il n'y a plus personne. Donc, le premier entretien, j'étais avec lui. Il était d'accord pour avoir cette aide éducative, sauf que le premier rendez-vous qu'il a eu tout seul avec l'éducatrice, il n'y a pas été. Donc, il avait ce rendez-vous normalement un soir, il n'y a pas été, et je n'ai pas été avertie, donc j'avoue que j'étais un peu en colère, parce que normalement, comme il est mineur, j'aurais bien aimé savoir qu'il n'avait pas été rendez-vous, donc bon. Le lendemain, moi j'avais rendez-vous avec le psychologue de cette même association. On a discuté un petit peu, j'ai bien compris que lui ne s'occupait pas de Lucas du tout, c'était l'éducatrice, et que lui, il s'occupait de moi. Donc, je n'avais pas demandé vraiment un suivi, mais voilà, donc on a discuté. Et donc, j'ai fait ce matin-là un mail à l'éducatrice en lui demandant pourquoi elle ne m'avait pas prévenue. Et son retour a été un peu difficile, oui, parce qu'elle m'a écrit qu'elle ne voulait pas reproduire les erreurs que j'avais faites avec Lucas. Des erreurs qui l'amenaient à la fuite. Donc, elle voulait absolument pas faire la même chose que moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, ben, je vais la laisser faire, puisque c'est son travail, du coup. Je me suis pas sentie bien du tout, même avec le psychologue. Quand j'ai vu le psychologue, au bout de trois quarts d'heure, il m'a dit, bon, on arrête, la séance est finie. J'avais pas demandé une séance de psychologue, parce que de toute façon, j'aurais pas voulu le faire avec ce monsieur. J'aurais choisi la personne avec qui je voulais le faire. Et quand je lui dis « Ok, on s'arrête », il me dit « On se voit dans 15 jours ». Je lui dis « Mais depuis... » Et entre ces 15 jours, qu'est-ce que je fais? Parce que je vous dis que c'est urgent. Et il m'a dit « Ben, vous continuez ». L'éducatrice, elle lui a envoyé des courriers pour lui demander si elle voulait déjeuner avec lui, si pour le prochain rendez-vous, voilà, tout doucement, tout gentiment, etc. Un peu un rendez-vous non formel. Lucas n'a jamais répondu positivement. Donc, au bout d'un moment, l'aide éducative a été arrêtée. Et depuis, j'ai pas trop de contact avec l'aide dans l'enfance. Je les ai appelés la semaine dernière. Ils savent qui je suis parce qu'à chaque fois, ils me disent « Ah oui, c'est pour le dossier de Lucas. On sait, depuis l'arrêt, ça a dégénéré. Vous nous l'avez dit et tout ça. On vous rappelle, on va vous faire un courrier. » J'ai rien. Depuis tout ça, donc j'ai déménagé. Pour aussi isoler Lucas un peu des jeunes qui étaient trop près, en fait. Hein. Donc là, c'est un peu plus loin, donc il faut qu'ils fassent un effort. Et ces jeunes-là, c'est bien, parce qu'ils n'ont pas envie de faire d'effort à cet âge-là. Donc ce qui est positif, alors je vais essayer d'être positive, hein, parce qu'il faut l'être. Depuis que nous avons déménagé, donc déjà, il n'y a plus personne à la maison qui vient. Lucas fumait et cigarettes et shit. Quand je rentrais, ça sentait, donc je lui avais interdit de fumer, etc. Voilà. Et donc là, il ne fume plus du tout à la maison. On voit les efforts qu'il fait, mais on voit qu'il n'y arrive pas complètement. C'est que c'est difficile à tenir. Et donc, il faut vraiment une aide. Et moi, je sais que je ne peux pas l'aider. C'est un enfant qui était intéressé par beaucoup de choses. Et du coup, petit à petit, il s'intéresse à rien. Il n'a rien envie de faire. Après, donc là, Lucas, en ce moment, il fait rien de ses journées, hein, puisque voilà, il va pas à l'école, il fait pas de stage, il fait rien. Donc voilà, il se lève tard, il doit traîner peut-être à partir de dans l'après-midi, parce que du coup, les autres enfants qu'il connaît ont fini l'école. Voilà, il rentre à la maison, il sort un peu le soir, et puis après il rentre. Donc il sort tous les soirs. Je n'ai absolument aucun moyen de pression pour lui dire je t'interdis de sortir. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait. Au mois d'août, le 19 août, il aura 16 ans et donc il m'a dit qu'il arrêterait l'école et qu'il chercherait du travail. On en est là. Ce qui est compliqué après, à un moment donné, c'est la confiance, quoi. La confiance, il faut garder confiance en ses enfants, mais malgré tout, des fois c'est difficile, on ne croit plus en rien. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est bon, on se dit c'est bon, ils mentent. C'est compliqué la discussion, hein, les relations aussi, parce que on a beau dire ça va aller, mais des fois on est en colère et on est toujours beaucoup en colère. Quand on était à l'ancien appartement, donc il sortait aussi, etc., et ça m'énervait, et je disais des fois on dit aussi des choses pas terribles en tant que mère, hein, quand on est énervé, je lui disais si tu veux être dehors, vas-y, va y vivre dehors, d'accord. Ça m'est venu à l'idée de le mettre dehors. Et je me suis dit, mais du coup, si je le mets dehors, il n'a personne. Donc, il n'a déjà pas son père, donc il n'aura plus sa mère. Donc là, ce n'est pas possible, parce que je ne peux pas le mettre dehors, en fait. C'est impossible. Moi, je ne le mettrai jamais dehors, je pense. Même si on s'engueule, même si... Voilà. Parce que je pense que si je le mets dehors, c'est vraiment... un abandon, quoi, complet. Et quoi qu'il arrive, moi, j'ai désiré cet enfant et je ne vais pas l'abandonner malgré tout, quoi. Même si il y a des fois, je me dis, putain, je serais bien mieux toute seule, tranquille, là, s'il pouvait me le prendre et me le mettre, je ne sais pas où, là, foyer, là. Et je serais peinard, mais non, quoi. Parce que je crois que tant que nos enfants ne vont pas bien, on ne va pas bien.
France Culture, les pieds sur terre.
Pierre était un enfant très très doux, très docile. Voilà, c'était un enfant qui ne faisait pas d'expérience malheureuse par lui-même, il était dans la réflexion, un gamin qui lit beaucoup. Et puis, j'ai pas vu. L'une des premières anecdotes, il est en cinquième. Et j'apprends qu'il n'a plus le portable qu'on lui avait offert. Bon, il nous dit qu'il se l'est fait voler. En fait, on apprend qu'il l'a revendu. Quelques semaines plus tard, un professeur a appelé en catastrophe le commissariat en disant « Je viens de voir un de mes élèves se faire enlever par une bande de collégiens. » Et emmené dans une tour à côté du collège. La police est arrivée. Effectivement, Pierre avait été enlevé et retenu, mais ça a duré très très peu de temps puisque la police l'en a sorti très 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 vite. Quoi. Ils sont arrivés tout de suite. C'est le papa de Pierre qui est allé le chercher au commissariat. Il a expliqué que la situation était... très confuse, entre deux bandes, lui il passait à pied et il avait été pris comme appartenant à la bande adverse, alors qu'il ne connaissait ni l'une ni l'autre des deux bandes. Et nous, à chaque fois, on a pris les événements comme ils venaient et les paroles comme des vérités. On n'imaginait pas du tout qu'on était manipulé par notre fils et que lui-même était dans un jeu de construction de sa personne autour de la délinquance, voilà. La première anecdote que je raconte à propos du portable, on venait de se séparer, le papa de Pierre et moi. Ça faisait quelques mois. Moi, j'ai pensé que comme on mettait en place quelque chose de paisible et d'équilibré avec le papa, je me suis rassurée avec ça. Et d'autre part, le papa de Pierre, c'était quelqu'un, c'était un grand intellectuel, c'était un historien. Et je ne pensais pas que dans ce milieu, que dans notre milieu, on pouvait ne pas voir, on pouvait être laxiste. Parce que c'est ça, en fait, l'histoire. C'est être tellement sûr de ses valeurs, tellement sûr qu'on va les transmettre, qu'on ne fait rien pour empêcher la catastrophe de se produire. Et donc, ensuite, le papa de Pierre était très malade. Et moi, je ne me suis pas rendu compte du rôle que jouait Pierre auprès de ses frères et sœurs. Et j'ai appris, par exemple, le jour de l'enterrement du papa, de Pierre et de mes enfants, j'ai appris tout ce que Pierre faisait chaque week-end où il était, ou chaque vacances où il était avec son père. C'est lui qui faisait à manger, c'est lui qui gérait tout le quotidien, absolument tout le quotidien, les sorties, les repas, tout. La première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était son anniversaire. Je pars le matin, je glisse la main dans la boîte aux lettres, machinalement, pour voir s'il y avait du courrier. Et là, il y avait un pochon d'herbe. J'ai demandé ce que c'était. Ah non, non, c'était pas à lui, c'était pas à lui, ah non, non. Et son frère, je crois, m'a dit bah, c'est son anniversaire, c'est un de ses copains qui lui a laissé dans la boîte aux lettres. Il a eu une scolarité totalement transparente, c'est-à-dire qu'il a fait le minimum syndical, il a eu son bac avec mention, comme un élève normal, voilà. Comme il a eu son bac dans de très bonnes conditions, il a été admis dans un IUT. Il n'a pas suivi du tout cette scolarité-là, il n'y arrivait pas du tout. Il est toujours velléitaire. Entre autres par une consommation énorme de cannabis, qui fait qu'il ne pouvait absolument pas se concentrer. Moi, je n'ai pas vu qu'il se droguait, je n'ai pas du tout vu qu'il dealait. Mais il est devenu un dealer notoire. Il vit de ça aujourd'hui. Il n'a non seulement jamais arrêté, mais c'est une véritable petite entreprise. Et il y avait des tiroirs dans une petite commode qu'il a. Les petits tiroirs, pas les plus grands, hein, les plus petits, étaient remplis de billets, remplis. C'était très impressionnant. J'avais jamais vu autant d'argent liquide de ma vie. C'était même pas caché. Les premières démarches qu'on a faites, c'est auprès d'un psy qui était spécialisé dans les addictions chez les ados. Mais comme Pierre n'était pas très loquace et pas du tout convaincu par le besoin d'arrêter cette addiction-là, il n'a pas communiqué. Il faut dire que le papa de Pierre s'est suicidé en sortant de chez son psy. Donc ça ne donne pas une image super positive des psys. Bon, alors j'ai demandé à ce qu'on aille dans une association. Ah non, 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 madame, c'est pas comme ça que ça se passe. Les associations, c'est les enfants qui y vont. Et vous, vous êtes contacté, mais c'est l'enfant qui doit faire sa démarche. Bon, ensuite, le conseil général, je m'y étais prise trop tard, il avait 19 ans, à ce moment-là, et l'assistante sociale m'a dit, non, non, ce n'est pas vous qui prenez rendez-vous, c'est lui. C'était pas possible de le convaincre. Et un jeune qui traîne, qui est malade, va être pris en charge par un certain type d'éducateur. Un jeune qui veut se réinsérer va être pris en charge par des structures de réinsertion professionnelle. Mais quelqu'un comme ça, qui glisse très 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 lentement dans un business aussi juteux. C'est quelqu'un qui deal depuis maintenant, alors on va dire réellement 10 ans, parce que ça fait réellement 10 ans qu'il deal, mais de façon très très organisée, on va dire que ça fait 7 ans. Mais il ne s'est jamais fait prendre. Et moi, la question que je me pose depuis le début, c'est fallait-il que je le dénonce ? Ça aussi, les gens qui auraient pu faire quelque chose, ce sont les policiers. Il y a eu un certain nombre de perquisitions à la maison pendant que j'étais au travail. Je n'ai jamais vu un seul policier chez moi. Alors, je l'ai su par le gardien de l'immeuble. J'ai su par le gardien de l'immeuble aussi que mon fils était à plusieurs reprises, avait été accompagné jusque dans la résidence par des policiers qui le soupçonnaient, bien entendu, de quelque chose. Et comme ils n'ont jamais rien trouvé, bah, ils sont toujours repartis sans laisser de traces. Et en disant, on ne laisse pas de papier parce que, comme ça, on ne va pas inquiéter ta mère. Ils sont dans le quotidien à ce moment-là. Ils sont dans des affaires courantes. Nous, ce sont nos drames personnels. Et ça n'a pas de commune mesure avec eux, puisque eux, c'est leur petit menu fretin, c'est leur quotidien. Bon, comme nous, je sais pas, moi le matin on va arriver au bureau, on va faire 2-3 trucs habituels. Eux, les 2-3 trucs habituels, c'est essayer de pincer les 2-3 fumeurs de joint autour du RER, voilà. Puis après, après ils vont faire des choses plus costauds, trafic d'armes ou des choses plus graves. À 24 ans maintenant. Pas de portable, pas de Facebook, pas Internet, pas de carte d'identité, pas d'assurance. Et totalement transparent, c'est-à-dire qu'il ne figure nulle part. Donc il n'a plus de sécurité sociale non plus, hein, il n'a plus de... Voilà. Lui ne me demande pas un centime. Pas un centime, ni pour manger, ni pour faire quoi que ce soit. Il vit à la maison, il fait les courses, il participe à la vie de la maison, et il a cette vie totalement nocturne, comme un chauffeur de taxi qui partirait le soir pour travailler. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas qui il fréquente, je sais simplement que dans la nuit il rentrera, il dormira, paisible. Voilà. Cette dichotomie entre le jour et la nuit, entre le cadre familial très infantilisant, la petite chambre avec son frère, le repas du dimanche soir, le seul que l'on prend ensemble, le repas du dimanche soir, cette vie dont on ne sait absolument pas de quoi elle est remplie. Je ne conçois pas, et encore aujourd'hui, hein, je n'arrive pas à concevoir qu'il s'installe dans cet état-là durablement. Pour moi, c'est transitoire. Je me dis, mais il n'attend pas la prison quand même, il n'attend pas la souffrance. Je ne sais pas, je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui non plus sur cette question-là, c'est-à-dire qu'il est dans le déni. Et moi, j'ai peur. Moi, je suis... J'ai peur et je suis paralysée parce que je ne sais pas ce que je dois faire. C'est cette angoisse perpétuelle pour moi, une constante angoisse. Il va se faire pincer, il finira en prison et ce sera l'enfer. Et la deuxième option, c'est il va sombrer dans des drogues beaucoup plus violentes et il aura des addictions qui vraiment le rendront malade et ce sera l'enfer. Je suis là toujours sur des œufs, en même temps à ne pas vouloir le brusquer. Je ne me vois pas, malgré tous les conseils qu'on m'a donnés, je ne me vois pas lui dire « va-t'en, là c'est bon, moi j'en peux plus, va-t'en ». Moi je lui ai beaucoup suggéré de partir. et puis de commencer à construire sa vie seule, qu'il a besoin d'être seul pour pouvoir se confronter à la réalité. Et lui, il m'a dit non, je ne suis pas capable d'habiter seul, je ne veux pas faire cette expérience-là, ce sera un fiasco. Je vais être envahie par mes amis, je ne vais pas savoir leur dire non, et je vais très très vite perdre pied par rapport à un rythme de vie, je ne saurai pas vivre seule, ce sera impossible pour moi, je n'aurai plus de limites. Il n'est pas seul, il arrive à être entouré et à avoir un lien avec nous, à maintenir un lien avec nous. C'est la seule chose que j'ai pu préserver, c'est le lien. Par contre, je ne peux pas le préserver lui. Je ne peux pas le préserver de lui-même. Moi, le travail que j'ai fait, c'est de supporter et d'être patiente. Et je suis sûre que je vais pouvoir faire face quand il y aura les catastrophes qui se produiront. Je pense que je suis armée pour faire face. Mais pas pour arrêter le processus. Je n'ai pas trouvé comment il fallait faire.
Hey little babe, don't you cry. We got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me. Honey child, let me tell you now, child. That morning sun is here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec les mères et la drogue, un reportage de Sophie Knapp réalisé par Marie Placé et diffusé pour la première fois le 24 juin 2015. Voilà, après l'émission que je vous proposais hier sur les animaux et les hommes. Un début d'année un peu plus difficile, mais avec de l'espoir tout de même. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Merci pour cette émission à Anaïs Obaïdi, à Anne Luong, à Valérie Borst. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter. N'hésitez pas à nous y rejoindre pour partager nos émissions, les faire connaître ou bien nous donner votre opinion sur notre travail.